Le titre du message aujourd'hui, le cri du réveil. Nous allons regarder ensemble la parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Quelle parabole! Le Seigneur, ici, parle de son Église. Et il compare son Église de la fin des temps à 5 sages et 5 folles. La première des choses qu'il faut remarquer dans cette parabole, c'est que peu importe si les vierges étaient sages ou folles, elles avaient toutes, chacune, une lampe. Peu importe si elles étaient folles ou sages, elles avaient une lampe. C'est la première des choses qu'il faut remarquer. La deuxième des choses faut remarquer, c'est que les sages prirent, en plus de leur lampe, de l'huile dans des vases, ce que les folles n'avaient pas. Les folles ne prirent point d'huile avec leur lampe. Il y a là une très belle image de ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Toute l'Église a une lampe. La lampe, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. L'Église en entier est sous le bénéfice, l'action, la présence de la grâce de Dieu au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter son Église, son temple. Peu importe s'il est sage ou fou, le Saint-Esprit vient. Il habite, il est là, il éclaire, il illumine le chantier. Il est une lampe qui éclaire nos pas pour nous diriger sur le chemin de la vérité. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et il parle, il s'adresse autant aux sages qu'aux insensés, qu'aux fous. La lampe est là pour briller pour tous. On met une lampe, Jésus dit, pour qu'elle éclaire toute la maison. La lampe, c'est le Saint-Esprit qui éclaire toute la maison. Mais on voit une situation que il y eut dans ce temps-là une nuit, une période de noirceur, où la lampe cessa de briller. Remarquez, au verset 6, ça dit bien au milieu de la nuit, leur lampe s'était toute arrêtée de briller, parce qu'il y avait une nuit, un temps de noirceur, un temps de silence de la part de Dieu. L'Église a traversé un temps de silence de la part de Dieu, où il semble que Dieu ne parlait plus, que la parole de Dieu était devenue une chose rare. Selon la prophétie d'Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. Amos 8, versets 11 et 12. Amos prophétise pour la fin des temps une parole qui dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et de soif, la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Une famine de la parole de l'Éternel, un silence de la part de Dieu. Dieu a envoyé son Église comme dans un désert, un lieu de solitude, de silence, pour l'éprouver, pour le tester. Une nuit sombre a passé sur l'Église. Et, ça dit bien dans Matthieu chapitre 25, toutes les vierges, autant les sages que les folles, se sont endormies, se sont assoupies. Alors Dieu revient visiter son Église. C'est ce que Dieu se prépare à faire maintenant. Dieu se prépare à revisiter son Église. Au milieu de la nuit, il y a un cri, le cri du réveil. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Parce qu'ils avaient tous une lampe. Ils ont toutes réallumé leurs lampes. Mais le problème, c'est que les folles, elles, n'avaient pas d'huile. On a dit que la lampe, c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui est là pour avertir autant l'insensé que le sage. La différence, c'est que le sage écoute la voix de l'Esprit, l'insensé ne l'écoute pas, il ne reçoit pas la correction, il ne reçoit pas la réprimande, il n'a pas une oreille attentive à l'Esprit de Dieu, il n'écoute pas, il passe outre. Tandis que le sage écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais remarquez le cri, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est le cri que le Saint-Esprit, que Dieu fait entendre, le retour de sa parole. Dieu fait entendre un cri pour réveiller son Église de la faim. Dieu envoie à nouveau comme un souffle de réveil, un souffle de vie, une onction de guérison, de miracle, de personnes qui viennent à lui. Dieu agit à nouveau. Son cri, mais remarquez que ce qu'est son cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le cri du Seigneur, c'est pas courir vers les miracles, aller vers les miracles, aller vers les guérisons. C'est voici l'époux. Allez à sa rencontre. Préparez-vous pour sa rencontre. Revêtez-vous du vêtement blanc pour aller à sa rencontre. Parce qu'on sait que Jésus va donner une parabole plus tard des invités aux noces. et il va en trouver un qui n'a pas revêtu un habit de noces blanc. Il va le jeter dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors si le cri « Et voici l'époux » allait à sa rencontre, cela indique qu'il faut se préparer, qu'il y a une préparation. Pourquoi y a-t-il eu une nuit? Parce qu'il faut se poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il permis une nuit, un désert, un temps de famine au niveau de la parole de Dieu, où il semblait que Dieu n'agissait pas? Une réponse à cela. Ça va avec le cri du réveil. Pourquoi il y a un cri? C'est parce que Dieu veut sauver son Église. Mais son Église est dans une situation bien particulière. Et on le voit, ça a été prophétisé dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, versets 15 à 19. Nous vivons les temps de l'Église de Laodicée. Nous sommes l'Église de Laodicée. Il ne faut pas se leurrer, s'illusionner, se mentir à soi-même. Nous vivons les temps de l'Église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Remarquez, c'est verset 16. Je te vomirai de ma bouche. Cela veut dire que l'Église n'aura plus part à la bouche de Dieu, à la parole qui sort de sa bouche. C'est le désert que l'Église a traversé maintenant. C'est la nuit qui est tombée sur l'Église. Parce que la bouche de Dieu a rejeté l'Église qui était tiède. Puis remarquez pourquoi, verset 17, Apocalypse 3, 17, pourquoi Dieu rejette, a vomi cette Église, la raison de cette nuit-là qui est venue sur l'Église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu. La prétention de l'Église, qui parce qu'elle s'est enrichie monétairement, matériellement, elle pense que cela suffit pour se présenter devant Dieu. Elle pense que parce qu'elle a une certaine richesse matérielle, que cela suffit pour se préparer à l'agneau. Puis Dieu dit, non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai jamais demandé de t'enrichir de biens matériels. Dieu veut revêtir, veut enrichir son Église d'un vêtement blanc, de sa propre justice, de celle qui s'obtient par la foi en Christ, qui s'obtient lorsqu'on s'approche de Christ par la foi et qu'on reconnaît l'humilité, qu'on reconnaît notre condition. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'illusionne lui-même. Notre condition présente, nous sommes malheureux. Nous sommes misérables, nous sommes pauvres, aveugles et nus. C'est notre condition, c'est la condition de notre cœur, présente. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de lumière. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de justice. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de richesse. Nous sommes pauvres, aveugles et nus. Malheureux, parce que le Saint-Esprit, c'est notre joie. Le Saint-Esprit, c'est notre trésor. C'est lui seul qui peut nous conduire dans la vérité, nous diriger dans les chemins de la paix. En nous-mêmes, nous n'avons rien qui plaît à Dieu. Il n'y a pas de justice en nous. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Ce qui est bon, nous devons le trouver en Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, au travers de celui que Jésus a envoyé pour nous diriger, pour nous consoler, pour nous éduquer, pour nous transformer. Le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui peut nous conduire dans la vérité. Et on voit que Dieu a vomi cette église de Laodicée de sa bouche à cause de sa prétention, de son orgueil. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre aveugle nu. Dieu l'a conduit dans le désert pour l'humilier. C'est pour ça la raison du désert. C'est pour humilier son Église, l'amener à se préparer. Et le cri qui arrive au milieu de la nuit, c'est comme si Dieu dit, maintenant le temps est venu. Il faut que tu fasses le pas de vraiment te préparer à la rencontre de l'époux. Il faut que tu te repentes, parce que c'est ce qui est écrit après. C'est ce que l'Esprit va demander à l'église de Laodicée au verset suivant, verset 18. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Le cri du réveil est un cri de repentance. Repens-toi. Repentir, cela veut dire changer de direction. Cela veut dire se convertir. Une conversion, cela veut dire que tu changes d'un état à un autre. Tu es transformé. Quand nous avons changé ici au Québec, du système anglais au système métrique. On a changé les pieds en mètres, les milles en kilomètres, les livres en kilogrammes. Tout a été changé. Il a fallu être transformé, il a fallu se faire une nouvelle idée, une nouvelle pensée, et se soumettre à cette nouvelle pensée. C'est cela que cela implique, la conversion, la repentance. C'est un changement radical. Un abandon de son état intérieur pour adopter un nouvel état, un nouveau cœur. Faites-vous un nouveau cœur. C'est le cri du réveil. C'est le cri qui permet la préparation pour la rencontre avec l'époux. Le cri que Dieu donne, si Dieu commence à agir, c'est pas de dire « Venez ici, vous allez avoir des miracles, vous allez avoir des guérisons, la gloire de Dieu va se manifester. » Ce n'est pas cela, le cri de Dieu. Le cri de Dieu, c'est « Repentez-vous. Reconnaissez votre orgueil. Reconnaissez que vous vous êtes imbu de vous-même, imbu de votre gloire personnelle, de votre richesse personnelle, que vous avez recherché la mauvaise chose, le mauvais but. Vous avez mis votre focus à la mauvaise place, de vous enrichir matériellement au lieu de posséder la richesse d'en haut. Comme Jésus disait, vendez ce que vous avez et faites-vous un trésor dans les cieux, là où la teigne ne peut atteindre. Cette vraie repentance que Dieu attend de son Église. Il revient visiter son Église par pure bonté pour manifester sa bonté. Comme ça dit dans Romains, sa bonté qui pousse à la repentance. La bonté de Dieu se manifeste pour pousser les gens à la repentance. Romains chapitre 2, au verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Le cri que Dieu fait parvenir à son peuple est un cri de repentance. Dieu veut manifester à nouveau sa parole. Il veut à nouveau rassasier son peuple de sa parole. Mais son peuple a besoin d'être conduit, d'être attentif à l'esprit de vérité et non pas se laisser juste attirer encore par des manifestations extérieures, des choses extérieures, la guérison, des miracles, des grosses foules, une gloire humaine, toutes ces choses que l'homme recherche. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles, faisait des guérisons. Il leur pourvoyait de la nourriture même. Jésus disait, vous venez vers moi parce que je vous ai donné à manger. C'était la foule à qui il avait donné, qu'il avait multiplié les pains pour eux. Jésus connaissait leur cœur. Il savait qu'ils étaient là pour des bénéfices physiques, matériels. Mais que leur vraie intention du cœur n'était pas bonne. Puis l'apôtre Paul parle de ces gens-là. 1 Timothée chapitre 6. Versets 3 à 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Il pense que Dieu, lorsqu'il manifeste sa gloire, c'est juste pour leur bénéfice personnel. Ils veulent en tirer encore un bénéfice. Ils croient que la manifestation de la gloire de Dieu, c'est juste pour leur bénéfice à eux. Mais ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu manifeste sa gloire. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu envoie sa parole, son cri. Son cri est là pour nous préparer à la rencontre de l'Époux. C'est un cri de repentance. Repentez-vous de votre orgueil, de vos prétentions. L'apôtre Paul continue en 1 Timothée 6, 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire que Dieu agit, mais ce n'est pas notre but. Le contentement veut dire se contenter, avoir appris à se contenter de ce que nous avons. Comme ça dit dans Hébreux, si nous avons le manger, le boire, le vêtement, cela nous suffit. Ça, c'est le contentement. Tu n'es pas là pour t'enrichir, tu n'es pas là pour ton profit personnel. Tu es là parce que tu aimes Dieu, que tu veux le servir, le suivre. Peu importe si le chemin qu'il trace devant toi apporte un certain renoncement dans ta vie. Tu es prêt à le suivre. La piété doit se manifester avec le contentement.
Parce que le contentement, c'est un fruit, c'est la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Dieu appelle son peuple à le suivre. Dans Tite, chapitre 2, Tite, chapitre 2, le verset 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » La grâce de Dieu, l'action du Saint-Esprit qui amène le salut de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, et là se manifeste, pas pour notre bénéfice physique, temporel et personnel, elle est là et se manifeste pour nous enseigner à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines, aux convoitises de ce monde, aux convoitises vaines de ce siècle. Et elle est là pour nous enseigner à se préparer à la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, à la rencontre de l'Époux. Elle est là, cette grâce de Dieu, l'action du Saint-Esprit, ce cri du réveil, est là pour nous préparer, pour qu'on se revêt spirituellement, se mettre prêt pour la rencontre de l'Époux. C'est le but, c'est le cri du réveil. Ce n'est pas « venez ici, il se passe des miracles, venez ici, vous allez être guéri », c'est pas le cri du réveil. Ça, c'est le cri de la chair, c'est le cri de la gloire humaine. Ça n'a rien à voir avec le cri du réveil. Jésus a bien dit qu'à la fin des temps, il y aura plusieurs qui vont dire « Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Que le Seigneur va leur dire ouvertement « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui n'avez pas obéi à l'esprit de vérité, qui vous aurait conduit sur ce chemin du renoncement, aux convoitises de ce monde. Mais non, vous avez voulu juste profiter de la gloire de Dieu. Vous étiez juste des profiteurs qui voulaient avoir des guérisons, qui voulaient avoir des miracles, qui voulaient avoir une grande foule de personnes à les suivre. Alors, profit à eux. Ça, c'est des faux prophètes. L'apôtre Pierre a dit qu'il va revenir des faux prophètes à la fin des temps. Jérémie a été confronté à ce genre de faux prophètes. On le voit dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, le verset 16 à 22. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Il vous entraîne à des choses de néant. Remarquez, il vous entraîne à des choses de néant. Juste des profits physiques. Venez ici, vous allez devenir prospère, vous allez être guéri, vous allez recevoir des miracles, des prophéties pour votre avenir, un brillant avenir. Toutes des choses vaines, de néant. Ne parle pas du renoncement, ne parle pas de la justice de Christ. Il ne parle pas de porter sa croix à la suite de Jésus et faire comme l'apôtre Paul disait, à tous les jours, je vis la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans mon corps. Ils ne parleront jamais de cela. Jérémie chapitre 23, verset 16, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun malheur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, pour voir, pour écouter sa parole. Qui a entendu le vrai cri du réveil? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. La course au miracle, la course aux prophéties. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Si vraiment ils avaient assisté à mon conseil, au verset 22, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. S'ils étaient vraiment prophètes, ils auraient dû prêcher la repentance, prêcher le retour à Dieu, à cette église de Laodicée qui est tiède, qui s'est enrichie, mais qui ne reconnaît pas qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, qui ne reconnaît plus sa condition présente. Tout ce qu'elle veut, c'est de se faire flatter. « Oh, ma belle petite église, comme tu es belle, comme tu es enrichie, comme tu es jolie. » Ces paroles, ces prophètes de coussinets, comme nous dira le prophète Ézéchiel, ces prophètes de coussinets, qui mettent des coussinets, qui confortabilisent les gens dans leurs péchés, qui ne leur disent pas la vérité, parce que c'est toujours plus facile de dire ce que les gens veulent entendre que de leur dire la vérité que les gens ne veulent plus entendre, que l'Église ne veut plus entendre. L'Église ne veut plus entendre la parole de vérité qui lui dit « Tu n'es pas à la place où Dieu te veut. Tu es dans une condition laodicéenne, une condition tiède. Tu as besoin de te repentir, de revenir à l'Éternel, de chercher la gloire de Dieu seul et non la gloire des hommes, d'abandonner tout ce qui tourne autour de ton petit moi que tu cherches toujours à dorloter, mais à revenir vraiment à Dieu de tout ton cœur, à l'aimer lui de tout ton cœur, de toute ta force, à abandonner les désirs de ce monde, les désirs charnels, pour suivre l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que les folles n'avaient pas d'huile. Ils avaient une lampe, la présence de l'Esprit agissait au milieu d'eux, mais ils ne l'écoutaient pas. Parce que c'est quoi l'huile? Si la lampe, c'est le Saint-Esprit, l'huile, c'est quoi? On sait que l'huile, dans le côté physique, l'huile est le produit de la transformation de l'olive. Pour avoir de l'huile, il faut transformer l'olive. C'est le fruit de la transformation de l'olive. C'est ça l'huile. Mais c'est exactement ce que c'est spirituellement aussi. L'huile, qu'il est question ici dans Matthieu chapitre 25, pour les vierges sages, l'huile, c'est le fruit de la transformation de notre cœur. L'olive, c'est nous. C'est nous qui avons besoin d'être transformés. C'est notre cœur qui a besoin d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Et l'huile, c'est le fruit de la transformation de notre cœur par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'on a de l'huile. C'est lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer, qu'on laisse le Saint-Esprit nous reprendre, nous corriger, nous diriger dans le chemin de la vérité, nous parfaire, parce qu'on a besoin d'être repris, on a besoin d'être corrigé, d'être entraîné dans le bon chemin, dans le chemin de la vérité, sur le chemin du renoncement. La grâce de Dieu nous enseigne, le Saint-Esprit va nous enseigner à renoncer au désir de ce monde, à l'impiété, à vivre dans ce monde d'une manière sage, juste et pieuse. C'est ça l'huile. C'est ça qui manquait aux vierges folles. Ils avaient voulu profiter de tout ce que le Saint-Esprit fait, mais ils avaient oublié de lui obéir. Ils avaient oublié d'être attentifs à ce que l'Esprit de Dieu leur disait. Ils avaient oublié de suivre l'Esprit de vérité et de marcher sur le chemin du renoncement, de porter leur croix à tous les jours. Comme Jésus leur avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le chemin n'a pas changé, le chemin est toujours ici et toi. C'est le même chemin que le Saint-Esprit nous amène à suivre. Aujourd'hui, ces prédicateurs de la prospérité, ces prédicateurs du réveil, de la gloire, pour juste ses profits personnels, ces prédicateurs-là ne parlent plus de ce chemin de renoncement-là. Tout ce qu'ils vont dire, venez ici, vous allez goûter à la gloire, vous allez goûter à la prospérité. Voici comment devenir prospère, voici comment s'enrichir. Et c'est toutes des choses que Dieu reproche à l'Église de la Laodicée. Tu es prospère, tu es riche, mais tu n'as pas la vraie richesse. Tu n'as pas cette richesse qui vient d'en haut, qui s'obtient seulement par le Saint-Esprit. Quand tu laisses le Saint-Esprit te diriger, quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, c'est pour ça que le cri du réveil est le même cri que Jean-Baptiste prêchait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. On doit se préparer à la rencontre de l'Époux. Comment on se prépare à la rencontre de l'Époux? Jean-Baptiste a été envoyé pour cela. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, pour lui disposer un peuple qui lui soit bien préparé. C'était la mission de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? Est-ce que Jean-Baptiste prêchait la prospérité? Est-ce que Jean-Baptiste était habillé d'or et d'argent et prêchait l'abondance? Non, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Puis il était habillé d'un vêtement de poil de chameau. Il n'avait rien de la richesse humaine, rien de la gloire humaine. Mais il prêchait la repentance et il disait au peuple de se préparer à la rencontre du Messie qui venait. Luc chapitre 1, verset 15-17. Une prophétie par rapport à Jean-Baptiste, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Ça veut dire que pour prêcher la repentance, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, tu prêches la repentance. Verset 16. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est le même cri que Dieu fait entendre aujourd'hui. Le cri qui vient du Saint-Esprit, c'est le cri de la repentance. Parce qu'on doit se préparer aux noces de l'époux. On n'entre pas dans une noce avec des vieux vêtements souillés. Quand tu es invité à une noce, tu mets tout en propre. Tu mets ton plus bel habit. Tu shines ton auto. Tu fais briller tous tes souliers, tout ce que tu as. Tu vas nettoyer de fond en comble ton auto, tout ce qui va paraître. Parce que tu te prépares à une noce. Encore bien plus avec l'époux divin, Christ, qui vient chercher son Église. On doit se préparer. Revêtir un beau vêtement blanc. Revêtir nos plus beaux atouts. Comment? En oublissant le Saint-Esprit. en suivant son chemin, en étant attentif, sensible à la voix de l'esprit, qui n'est pas la voix de la prospérité, qui n'est pas la voix de ces super prédicateurs de la gloire, cette cour de miracles qu'on veut nous faire entendre aujourd'hui. Venez, Dieu agit, venez, venez ici. Non, ce n'est pas ça, le cri du réveil. Le cri du réveil est humilie-toi à nouveau, repens-toi, reconnais ta nudité spirituelle, reconnais ton aveuglement, reconnais ta pauvreté et reviens vers Dieu de tout ton cœur. Soumets-toi au Saint-Esprit, suis son sentier, son chemin de renoncement, accepte d'être transformé, d'être parfait à nouveau, accepte d'être repris par le Saint-Esprit, de changer tes voies, de réformer tes voies. C'est ainsi que tu auras de l'huile avec ta langue, l'huile de la transformation du Saint-Esprit. C'est ce qui manque le plus à l'Église aujourd'hui. Seules les vierges sages, avec leur huile, ont pu entrer dans la présence de l'Époux. Et ensuite, la porte a été fermée. C'est très sérieux. La porte a été fermée. Les vierges folles qui n'ont pas d'huile, qui se sont amusées juste à profiter des miracles, à profiter de la gloire présente, à profiter de la richesse qui passait, de l'abondance. Ces vierges folles se sont butées à une porte close. Ils n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. C'est très sérieux. C'est très sérieux ce qui va arriver à l'Église insensée. Parce qu'elle n'entrera pas dans la salle des noces. Elle va avoir à subir un châtiment de Dieu. Je ne dis pas qu'elle sera perdue, mais je dis qu'elle aura à subir un très dur châtiment de la part de l'Éternel. Elle sera laissée ici-bas. Elle aura passé la grande tribulation, elle devra faire face à un châtiment de Dieu. Elle devra faire face à la colère de Dieu qui va se manifester, à la venue de l'homme et puis à la venue de l'Antéchrist qui va faire mourir un grand nombre. Ces gens devront payer de leur vie leur allégeance à Christ s'ils veulent demeurer fidèles à Christ. Parce qu'ils ont agi en insensé, parce qu'ils se sont réjouis à la veille du jugement, tandis qu'ils auraient dû se préparer. Cela va leur coûter cher. C'est maintenant qu'il faut que tu prépares ta lampe avec de l'huile. C'est maintenant qu'il faut t'enrichir de cette huile précieuse, la transformation du Saint-Esprit. Il faut que tu passes par là, si tu veux être prêt pour la rencontre de l'Époux. C'est un chemin de renoncement. C'est un chemin qui ne plaît pas à la chair. C'est un chemin de repentance. C'est un chemin qu'on n'aime pas entendre. C'est une prédication qu'on n'aime pas nécessairement entendre. On ne veut plus entendre les prédicateurs qui prêchent la repentance. Mais c'est le seul chemin qui reste à l'Église pour son salut, pour se préparer à la rencontre de l'Époux. Il n'y en a pas d'autre. Dieu veut à nouveau envoyer Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Mais ce sont qui les Élie que Dieu va envoyer? Pas ceux qui prêchent la gloire et la prospérité et les guérisons, les miracles à ne plus finir. C'est pas ça. Élie n'a fait aucun miracle, mais il a prêché la repentance. Les Élie que Dieu envoie, c'est ceux qui encore aujourd'hui osent avertir le peuple de Dieu qu'il doit se repentir. Ils osent encore lui dire la vérité parce qu'ils l'ont eux-mêmes entendu de la part de Dieu, parce qu'ils ont assisté au conseil de l'Éternel, puis ils savent que Dieu est en colère contre son Église. Dieu a un procès avec son peuple. Il l'appelle à se repentir. Il veut la sauver, mais il ne peut pas dans l'état où elle est là, parce qu'elle est tiède. Dieu veut la ramener à lui, cette Église. Il l'aime. Il ne veut pas la laisser dans cette condition-là. C'est pour ça qu'il dit, « Repends-toi. Je te laisse encore une dernière chance. J'envoie à nouveau un dernier cri. Je pars à nouveau à mon peuple. J'envoie un cri de réveil. Je manifeste à nouveau ma gloire pour t'emmener à nouveau à te repentir. Dieu manifeste encore sa bonté pour pousser à la repentance. Qu'allons-nous faire de son cri? Allons-nous suivre son sentier? Allons-nous marcher à sa suite? Allons-nous écouter l'Esprit de vérité et porter sa croix, porter la croix de Christ à sa suite, à la suite de Jésus, comme il nous l'a demandé? C'est le cri du réveil que Dieu veut faire entendre à son Église. Entendons, écoutons le cri